インスタウェブラジオ。
Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo?
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about you, as I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, et pour notre grand retour, notre toile est consumée par le brûlant 120 battements par minute de Robin Campillo, sous les yeux de Mathias, Anastasia et moi-même. Bonsoir à tous les deux.
Rebonsoir Rémi.
Bonsoir Rémi et bonsoir tout le monde.
Alors on a déjà tout lu, tout entendu sur ce film reparti de Cannes avec un succès critique retentissant, mais offrons-nous tout de même un petit résumé. Avant d'ouvrir la discussion, 120 battements par minute retrace les combats d'ACT UP Paris pour faire reconnaître les ravages de l'épidémie du sida à la fin des années 80 et au début des années 90. On suit donc les militants de l'association dans leurs réunions houleuses et leurs actions souvent tonitruantes. Mais peu à peu, on découvre aussi leurs histoires personnelles, en particulier celle d'un couple, Sean et Nathan, colonne vertébrale du film, lequel s'ouvre avec leur rencontre et se termine avec la mort de Sean, n'ayez pas peur, le spoiler est sans surprise. Une histoire collective et des histoires personnelles donc, particulièrement marquées par l'urgence, urgence de vivre, dans l'imminence de la douleur et de la mort. Je m'arrête pour le résumé, il y aurait encore beaucoup à en dire, et je me tourne vers vous, Anastasia, Mathias, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ?
Eh ben, je trouve que c'était très juste l'adjectif que tu as employé, brûlant, parce que c'était vraiment un film très brûlant, et je trouve d'ailleurs que par rapport à l'action de ce film et au personnage du film qui essaye de faire alarme, qui est déjà très présente, et de réveiller un peu les gens qui l'entourent, je pense qu'un film comme ça, passé à ce moment-là, ça serait vraiment une alarme très pertinente et qui pourrait vraiment faire son effet, parce qu'en tout cas pour moi c'était un effet comme ça.
Mathias ?
Oui, brûlant, c'est les adjectifs qui reviennent. Oui, enfin, je suis dithyrambique sur ce film, il n'y a pas de mystère, comme une bonne partie de la critique, malgré certains ronchons qui ont pu considérer que ce film n'était pas assez inclusif et un peu trop centré sur des homosexuels. Oui, un critique belge, par exemple. Non, je trouve que le film se tient de bout en bout. J'ai entendu ça et là qu'il était trop long, et personnellement, non, je n'ai pas trouvé qu'il était trop long. J'ai trouvé que aussi, narrativement, c'était très bien construit, que l'introduction d'histoires personnelles plus ou moins fictives était bien dosée avec l'aspect militant politique. Parce que souvent, dans les films politiques, on rajoute artificiellement une histoire personnelle un peu tape à l'œil, un peu racoleuse. Et là, je trouvais que dans ce film-là, ça n'avait pas cette fonction-là, mais vraiment une sorte de dosage assez savant. Et assez intéressant d'histoire personnelle et d'histoire collective.
Et en ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit la critique, on reviendra là-dessus, la photo, la caméra. Comme tu dis, les histoires personnelles et l'histoire collective qui sont mêlées d'une façon extrêmement intelligente et efficace, on sent qu'il y a une construction millimétrée de ce film. J'émettrai quand même, et je terminerai avec quelques réserves, parce que j'ai l'impression que le film est un peu étouffé par cette construction, par certains moments, qu'il y a des moments où ça s'essouffle un tout petit peu, et justement ces longueurs dont il est parfois question, malheureusement je les ai perçues. Cela dit, globalement, on peut qu'être positif sur quasiment toute la ligne sur ce film, qui malgré tout est une grande réussite, si on met de côté donc quelques petits égarements au montage, je trouve, on va dire. J'aurais voulu commencer par justement sa caméra, qui est assez impressionnante. Alors on l'avait vu dans ses précédents films, mais le réalisateur a un talent pour filmer le mouvement. Sa caméra approche les corps de très très près, la caméra est très très énergique et elle est vraiment secouée par les corps. On la voit bouger avec ces corps qui s'agitent, je pense les scènes dans les réunions, dans les amphis, où on voit tout d'un coup des gens jaillir de leur place pour s'énerver. Il y a vraiment une caméra très très mobile et je trouve que ça participe énormément au dynamisme du film. À l'inverse, il y a des scènes d'immobilité qui sont vraiment magnifiques et qui sont appuyées par une très très belle photographie. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, mais je suis absolument d'accord pour le mouvement de la caméra qui nous fait, en fait, qui crée l'effet de la présence, parce que c'est justement les scènes où on participe en fait à des réunions hebdomadaires chaque fois. Ça aide beaucoup à se mettre à cette place et de participer à la discussion. Et des fois, je me rendais compte qu'en fait, oui, moi aussi, je réponds à des questions qu'il évoque et je veux dire mon oui ou non, ou je veux aussi faire des propositions ou dire oui, ça, le truc avec les pom-poms, ça ira super bien. Du coup, moi, je suis absolument d'accord que la caméra, ça marche super bien et ça crée cet effet de présence tout le temps.
Oui, je trouvais qu'il y avait un très bon dosage entre des formes de réalisation plutôt, pas caméra au point, mais vraiment qui essaient de nous mettre dans une situation et de nous intégrer, nous spectateurs, notamment les scènes en amphi, les scènes de discussion. Et quand même, le film est scandé de moments complètement abstraits où on part, notamment il y a cette scène en boîte qui part en représentation complètement... pas figurale.
Bah, abstraite du virus, en fait. C'est-à-dire qu'on a les lumières de la soirée qui se...
Et on revient sur une représentation imagée du virus, mais en passant quand même par un passage quasiment onirique et abstrait. Et je trouvais que la jonction... Voilà, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais il y a quand même un bon dosage de différentes choses qui, a priori, sont hétérogènes.
Oui, la composition des plans aussi est toujours extrêmement fouillé. Le film réussit à être à la fois vivant et intellectuel, ce qui est quand même assez rare, en particulier dans le cinéma français. On a tous ces plans qui sont irrigués par le sang, entre autres. Et ça crée vraiment une coloration très très marquante de certaines images, genre, parfois y compris par le sang en sens propre, mais on a aussi plein de figurations imagées. Ça, et puis dans la représentation de toutes les scènes d'intimité, il y a une multitude de petits détails où la politique contamine l'intime en permanence. Et c'est assez fort la façon dont c'est construit. Je pense à ce... Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas vraiment la politique, mais ces petits détails, ce réveil qui sonne au milieu de la nuit parce qu'il faut prendre des cachets, tout un tas de petits détails auxquels
mais
on a pensé.
Un truc aussi très bête, c'est qu'on voit des personnages mettre un préservatif, ce qui dans le cinéma n'apparaît quasiment jamais.
Oui.
Juste voilà, un truc tout bête de voir des personnages qui pensent à mettre un préservatif et qui le mettent, alors que généralement dans les scènes de sexe dans le cinéma, on a une ellipse.
On a la tendance de faire la scène la plus belle possible, pour qu'il y a comme si rien qui se passe dans la vie réelle, en fait, dans le cinéma, ça n'existe pas. C'est une image idéale, oui.
Mais voilà, on prouve quand même qu'on peut faire une belle image, on peut faire de belles scènes avec des personnages qui sont en prise avec une situation très concrète.
Oui, parce que j'en parlais, la photographie est quand même très très belle. On a quelques scènes. Alors bon, évidemment, cette scène de soirée dont tu parlais, mais même d'autres scènes qui sont vraiment magnifiques, un certain nombre de scènes de nuit où justement on a cette intimité très très bleue qui est vraiment très très bien rendue. À l'inverse, je pense à ce défilé nocturne aussi où on a vraiment un très très beau travail sur la photo et ça contribue à une forme de chaleur qu'on trouve dans ce film parce que c'est quand même un film éminemment vivant et ça ne sombre pas dans le macabre alors que ça le frôle quand même.
Oui, et avec beaucoup d'ironie aussi, parce que je me rappelle de cette scène quand Sean, et c'est après une des actions, ils sont dans le train et ils commencent à dire, comme si c'était sérieux, mais finalement c'est de l'ironie, que voilà, ils se réveillent chaque jour avec, comme si la vie est beaucoup plus colorée et qu'en fait il les revit, il repense sa vie, mais en fait il finit par dire non, je blague, c'est absolument pas ça, je me réveille dans un état horrible, etc. etc. Mais c'est justement ça, c'est ce qui donne de la vie en fait, parce qu'on ne vit pas des moments du cinéma dans la vraie vie. Des fois, la vie, ça, en fait, toujours, la vie, ça dépasse le cinéma et c'est juste un moyen de nous faire regarder les choses autrement. Et là, justement, je pensais que ce film, il nous a fait regarder la réalité d'une manière très réelle. Justement, ce qu'on ne fait pas toujours, surtout quand ça ne nous concerne pas véritablement, je dis pour la maladie.
Et ça, c'est porté par, entre l'incarnation des acteurs, cette force de vie, de vivacité, en particulier Noël Pérez Biscayat, qui donc est plus ou moins le rôle principal dans le film, et qui est assez impressionnant dans son rôle, Mathias.
Oui, enfin, je trouve qu'il y a vraiment une urgence à revitaliser et quasiment faire une sorte d'acte de nécromancie en redonnant vie à des gens dont on connaît le destin, dont on sait qu'ils sont morts, et à quasiment agir en urgence et à montrer l'urgence de faire revivre et aussi de faire revivre une association ACT UP dont on sait ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle n'est plus l'ACT UP des années 90, et de un peu de réinjecter un peu de vie. Et toujours jouer sur les deux tableaux et de montrer voilà, ce qu'a été ACT UP, toujours peut-être aussi en tirant la sonnette d'alarme pour que ACT UP continue aussi à être.
Un film globalement qu'on a tous beaucoup aimé. Je termine peut-être quand même avec les petites réserves que j'avais parce que j'ai l'impression qu'il y a des longueurs, que le montage est particulièrement maladroit, pas dans le sens où les scènes seraient trop longues, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de scène qui est longue, il n'y a même pas de scène qui soit insoutenable ou quoi que ce soit, mais je trouve ça assez dommage que beaucoup se répètent. Et en particulier cette scène de boîte de nuit qui est magnifique, qui est vraiment sublime, la deuxième fois qu'on la voit, du coup, c'est absolument pas nécessaire. Et je trouve un petit peu dommage, j'ai comme l'impression que le réalisateur ne parvient pas totalement à exprimer ce qu'il veut exprimer efficacement d'une certaine façon. Qu'il aurait pu faire exactement le même film avec une demi-heure de moins et que du coup cette urgence en aurait été que décuplée. C'est la sensation que j'ai eue en sortant du film, des répétitions quand même vraiment dommages. Et il y a des moments où, y compris pendant le film, je me disais, ça, il n'y en a pas besoin.
Oui, mais peut-être c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Genre, je ne sais pas, mais pour moi, c'était cette longueur, c'était aussi, ça fait la partie de l'effet de réaliste, en fait. Parce que pour eux, ça se répète. Et bien, du coup, pour nous, vu qu'on participe à des réunions, vu qu'on participe en partie à leur...
Oui, mais le cinéma n'a pas une ambition complètement documentaire non plus. Enfin, le cinéma, le film, je veux dire.
Non, mais c'est ce film en particulier, pour moi, c'était... c'était pas documentaire, mais c'était pour sensibiliser le spectateur, je pense. C'est pour vraiment le faire entrer dans cette ambiance et dans cette situation particulière.
Bref, le débat reste ouvert. Le mieux sera, chers spectateurs, d'aller vous faire un avis en salle, bien sûr. Le film est encore à la Fourmi et au Comédia, où vous pourrez le voir. Et on passe tout de suite au Cérivore. Bonsoir, Pierre.
À vous tous.
Ted, suit up.
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What?
Bonjour à vous tous, c'est la rentrée. La rentrée des classes, la rentrée à Saint-Étienne pour certains, mais c'est surtout et aussi la rentrée des séries. Et oui, beaucoup de programmes de diffusion se calent sur les vacances, et nous sommes particulièrement gâtés pour cette rentrée des séries. Amis sériphiles, sérivores ou séricurieux, nous allons nous régaler cette année. Alors tout d'abord, revenons rapidement sur les deux séries qu'il ne fallait pas manquer cet été, Game of Thrones saison 7 et Rick et Morty saison 3. La dernière saison de Game of Thrones, amputée de 3 épisodes par rapport aux saisons précédentes, compense par le budget alloué aux effets spéciaux et bien sûr au grand spectacle. On est très très loin des premières saisons très poussées niveau intrigue, maintenant place au grand nawak, avec des dragons dans tous les sens, des bastons tous les deux épisodes et surtout des arcs narratifs que l'on ferme comme une porte dans un courant d'air. Rick et Morty, dont la saison est toujours en cours de diffusion, encore pendant 2 semaines, est à la hauteur des précédentes sur le plan réalisation. Par contre, si chaque épisode séparément est assez incroyable dans sa construction et son histoire, il y a comme un petit arrière-goût de série délirante qui s'assagit et fait trop d'efforts pour rester délirante. Ce qui ne m'empêche pas de continuer d'attendre chaque épisode avec impatience. Maintenant, petit aperçu des sorties de la rentrée. Commençons par les classiques, avec Twin Peaks, revenu pour une troisième saison. Les critiques sont encore un peu mitigées, mais je vous invite comme moi à tester par vous-même pour voir ce que peut donner un reboot 26 ans après l'original. De son côté, David Simon, dont j'ai déjà parlé pour ses séries Generation Kill, Show Me a Hero et The Wire, revient avec The Deuce, une série centrée cette fois-ci sur l'émergence de l'industrie pornographique dans les années 70 aux États-Unis. On y verra notamment James Franco et Maggie Gyllenhaal évoluer dans cette décennie un peu folle et cet univers très intrigant des débuts d'une industrie dont on connaît maintenant la grosse machine bien huilée. Enfin bref, une série qui m'intéresse tout particulièrement pour son showrunner et son sujet, pardon, son univers. Maintenant, du côté de Netflix, eh bien là, c'est Noël avant l'heure. Pour ceux qui ont aimé Stranger Things, la série revient le 23 septembre sur vos écrans d'ordinateur. N'ayant pas vu la première saison, je ne peux pas vous en dire plus, mais je tiens de source sûre que si vous l'avez aimé, vous attendrez impatiemment la saison 2. De mon côté, je vais me délecter de trois séries qui sont sorties le 1er septembre, à savoir Narcos la saison 3, The Expanse la saison 2 et BoJack Horseman saison 4. Après une saison 2 transitoire et donc pas très rythmée mais tout de même intéressante, Narcos revient cette fois-ci en changeant totalement d'antagoniste, préférant se concentrer sur les successeurs de Pablo Escobar, le cartel de Cali. On espère que ce revirement permettra un recadrage rafraîchissant pour éviter de retomber dans les travers de la saison 2 qui mêlait deux histoires sans pourtant les développer vraiment. BoJack Horseman, quant à lui, est à regarder pour tous les cyniques au grand cœur, tous les déçus de la vie ou simplement les paumés. Le dessin animé dans un univers d'animaux anthropomorphiques parodie le monde du show business sans aucun scrupule et raconte l'histoire vraiment prenante d'une star de sitcom tombée dans l'oubli mais avec de l'argent à ne plus savoir qu'en faire et des soucis non résolus dans tous les sens. Je suis curieux de voir ce que la saison 4 peut donc nous réserver. Et pour finir, The Expanse, saison 2. Je vous le dis franchement, dès que ce direct est terminé, je rentre chez moi pour la commencer. Ayant fini la première saison il y a peu, je peux vous dire que Netflix sait ce que binge-watcher signifie et découpe les saisons de ses créations plus pour des raisons de production-diffusion que d'intrigue. J'ai extrêmement hâte de me replonger dans ce thriller slash film d'action-aventure dans l'espace avec complots interplanétaires et conflits géopolitiques à la clé. De la hard SF comme j'adore avec une intrigue vraiment prenante, bien écrit, bien réalisé, beaux effets, cette série rentre facilement dans mon top. Reste à voir si elle tient le coup avec la saison 2. Sur ce, c'est tout pour les séries. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Sérivore centré sur une seule série cette fois-ci. En attendant, je vais prier pour ma pauvre bande passante et vous souhaite des heures de bonheur sériel.
Merci beaucoup Pierre, et alors le Détour Planète Zoo touche déjà à sa fin, on a pris un petit peu de retard, je saute une partie des suggestions de films que j'allais vous donner, mais je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler, parce qu'évidemment vous le savez déjà, que le programme du Festival Lumière est sorti il y a quelques jours, qu'il est donc temps de passer quelques heures à faire votre petite sélection. Je rappelle que la rétrospective principale est consacrée à l'immense Wong Kar-wai dont certains films sont déjà projetés à partir de mercredi à l'Institut Lumière. D'ailleurs, en attendant le festival, n'oubliez pas non plus Kill Bill, les deux d'affilée, samedi soir à l'Institut. Et en ce qui concerne donc le programme du festival à proprement parler, on a une rétrospective Clouseau, une rétrospective Melville, une invitation à Tilda Swinton, une nuit Guillermo del Toro et une énorme rétrospective de grands westerns. J'en oublie évidemment, mais comme d'habitude, le programme est assez fantastique. N'oubliez donc pas de prendre vos places pour le festival Lumière.
Et n'oubliez pas aussi la nuit dans l'espace organisée par le festival Lumière.
Pour avec ceux qui ont envie de revoir Interstellar. D'Étoiles plein les yeux, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'était comme d'habitude Rémi Cerda à l'animation avec Pierre Lemoyle, Anastasia Kozireva et Mathias Soubiz. Merci beaucoup à Céline Autain au jingle et à très bientôt sur les ondes de Transistor. Voilà, D'Étoiles plein les yeux, c'est donc terminé. Nous restons en plateau et c'est tout de suite parti pour la dernière émission de ce direct, grande émission d'actu de Transistor à laquelle vous êtes bien sûr tous conviés à partir du prochain numéro. C'est parti pour le journal radiophonique amplifié.